Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val d'Oise, à écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et grâce à notre appli dans le monde entier, peut-être au Japon d'ailleurs. Jacqueline Voraz avec Nicolas et Enzo à la technique. Bonjour Nicolas, bonjour Enzo. Quand le Japon devient une destination pour se reconstruire ? C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et aujourd'hui, mardi 17 mars 2026, partons à la découverte de ce pays qui fascine, qui intrigue, qui inspire, le Japon. Je dois d'ailleurs vous avouer que j'ai préparé ce dossier avec beaucoup d'enthousiasme et même une certaine excitation à l'idée de réunir autour de cette table des acteurs passionnés du Japon, chacun dans son domaine, culture, jeunesse, gastronomie, tourisme, développement économique. Ce matin, avec l'économie en direct, c'est donc une découverte du Japon pour aller bien au-delà des clichés et des cartes postales. Pendant cette émission et jusqu'à 11h, nous allons parler bien sûr de culture japonaise, d'ouverture internationale, de projets humains et économiques et surtout d'initiatives qui donnent de l'espoir à la jeunesse. En effet, le Japon peut être une destination pour se reconstruire, se découvrir, créer des ponts entre les cultures et imaginer de nouveaux projets de vie. Et c'est ce que nous allons explorer en compagnie de mes invités qui tous ont en commun une volonté forte, créer ces passerelles entre le Val d'Oise et le Japon. Bonjour Tariq Aziz.
Bonjour.
Tariq, vous êtes directeur de l'association Yabai et vous allez nous la présenter dans quelques instants. David Croc, bonjour.
Bonjour Jacqueline.
Directeur du concept store HIS Paris et de la maison Kisuna.
Oui.
À vos côtés, Antoine Chantavon, bonjour.
Bonjour.
Directeur d'une agence de voyage, Kitsune Voyage et président de l'association Yabai. Stéphanie Roulant, fondatrice de l'atelier Aoi. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Jacqueline.
Et vers 10h, nous retrouverons par téléphone Jean-François Benon, directeur général du CEVO, l'agence de développement économique du Val d'Oise. Bienvenue et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct sur IDFM Radio.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Avant de commencer, je vais vous proposer à chacun de vous présenter en quelques mots. Donc Tariq Aziz.
Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Tariq, j'ai 25 ans et je suis le directeur et fondateur de l'association Yabai. On aide des jeunes du Val d'Oise à pouvoir partir au Japon et à découvrir des métiers et à les former à l'entrepreneuriat.
Très bien, donc et vous nous direz comment, pourquoi cette association, enfin on veut tout savoir.
Avec plaisir.
Merci Tariq. David Croc.
Bonjour, donc moi je suis fondateur de Maison Kizuna, un ancien lieu à Enghien, un lieu culturel sur le Japon. Et qui est désormais un Instagram culturel. Et je suis aussi directeur du Concept Store HIS à Paris.
Très bien, vous nous direz ce qu'est ce Concept Store. Merci David. Antoine Chantavong.
Bonjour, je suis Antoine Chantavong. Donc, je suis directeur d'agence de voyage Kitsune Voyage. Donc, je propose principalement des voyages vers le Japon. Et je suis aussi président de l'association Yabai avec Tariq.
Très bien, merci. Et Stéphanie Roulant.
Alors, donc Stéphanie Roulant, moi je propose avec l'atelier Aoi un service traiteur pour les entreprises et les particuliers avec la particularité de proposer de la cuisine française et japonaise.
Très bien, et donc vous êtes installée dans le Val d'Oise.
Exactement, à Épieds-les-Louvres.
Merci beaucoup Stéphanie. Et donc Jean-François Benon, eh bien tout à l'heure nous dira, il n'est plus à présenter Jean-François Benon, mais quand même on fera un petit tour d'horizon. Merci pour ces présentations.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Alors David, on commence avec vous parce que vous avez un impératif d'horaire et vous allez nous quitter dans quelques instants. Oui. Mais moi, je tenais absolument à ce que vous soyez présent aujourd'hui parce que l'occasion était trop belle déjà de vous faire revenir puisque j'avais eu l'opportunité de vous recevoir au moment de la création de la maison Kisuna. Et puis, je crois que vous vous connaissez tous, donc il fallait vraiment en profiter. Cette aventure de Kisuna, comment s'est-elle transformée puisque vous n'avez pas pu continuer?
Oui, en effet, Maison Kizuna donc, a quand même assez bien démarré à Enghien. J'avais pas mal de clientèle, etc. Mais la réalité de la vie, des coûts, ont fait que j'ai dû fermer et j'ai décidé de transformer ça en juste un compte sur les réseaux sociaux, totalement culturel. Donc je fais des vidéos expliquant la culture japonaise. Et Maison Kizuna, du coup, le lieu physique n'existe plus.
C'est ça, mais il existe sur les réseaux sociaux.
Exactement, oui, je continue à publier chaque semaine beaucoup de contenu et voilà, on va dire je suis créateur de contenu.
Oui, moi je vous suis sur les réseaux sociaux et je vois tous ces contenus.
Merci beaucoup.
Et donc le concept store HIS, qu'est-ce que veut dire HIS?
Alors HIS c'est Hideo Sawada, c'est le fondateur de HIS, donc c'est une agence de voyage japonaise qui est née dans les années 80. C'était un peu, on va dire, le free de l'agence de voyage à l'époque. Donc, ils ont un peu explosé les prix là-bas et ce qui a fait que c'est devenu assez célèbre. Maintenant, HIS est dans 59 pays dans le monde.
Oui.
Et ils ont ouvert dans quelques pays, surtout en Europe, dont à Paris, des concept stores. À Paris, c'est un concept store, donc, sur l'artisanat japonais surtout, avec un esprit de voyage. Donc, pour un peu revoir l'agence de voyage. On voyage à travers les objets dans la boutique et on a aussi une énorme collection de saké et alcool japonais.
Ah d'accord, vous êtes passé du thé au saké.
Voilà, c'est ça. Moi, je suis plus spécialisé en thé entre nous, mais le saké, oui. Voilà, j'apprends encore. J'ai mes collègues qui sont là.
Et d'où vient cette passion pour le Japon?
Alors le Japon, ça date depuis tout petit. J'ai découvert via le Club Dorothée dans les années 80-90. Et au fur et à mesure du temps, je me suis passionné à travers les mangas d'abord. Après, je suis devenu étudiant en langue japonaise et culture. Et voilà, c'était une sorte de révélation. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec cette culture japonaise. J'ai l'impression d'adhérer totalement, en tout cas, à la culture.
Oui, non, jusqu'à apprendre la langue.
Exactement, oui, j'apprends la langue tous les jours d'ailleurs, puisque que les collègues japonais.
D'accord. Ah oui, donc vous devez parler couramment maintenant.
Pas couramment encore, mais je me débrouille, on va dire.
Et vous êtes allé plusieurs fois au Japon?
Juste deux fois, malheureusement, oui. Mais c'est déjà bien.
Bon, vous allez peut-être pouvoir y retourner, ne serait-ce qu'avec peut-être Antoine Chantavong ou HIS.
HIS, on va dire.
Bon, alors vous participez à des événements culturels, hein, vous nous l'avez dit, comme des festivals japonais. Vous pouvez nous en citer certains événements?
J'étais récemment à la Japan Expo Marseille avec HIS du coup, où je représentais la boutique et on avait aussi un côté voyage parce qu'on a un bureau à Nice aussi. Donc on était la seule d'ailleurs agence de voyage à la Japan Expo Marseille.
À quel endroit, Marseille?
C'était au Parc des Expos de Marseille, à côté du stade de foot. Et voilà, moi je présentais des objets très traditionnels de l'artisanat à la boutique. On était d'ailleurs que deux dans toute la Japan Expo.
Mm-hmm. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, la culture japonaise rayonne énormément en France, que ce soit à travers les mangas, la gastronomie, le design, les traditions. Comment expliquez-vous cet engouement?
Selon mon avis à moi, je pense qu'il y a eu une époque où les États-Unis étaient, on va dire, l'American Dream, il y a quelques années encore, et que maintenant, c'est plus le cas. Les gens sont passés plus vers quelque chose de différent, on va dire, ils sont tournés plus vers l'Asie, en fait, tout simplement. Donc, il n'y a pas que le Japon, il y a la Corée du Sud aussi qui fait rêver pas mal de monde. Comment je l'expliquerais? Je ne sais pas trop, je vous avoue.
C'est... Tariq, je vois approuver ce que dit David par rapport à cet engouement.
Oui, je suis d'accord.
Vous voulez expliquer comment?
Autour du Japon?
Oui.
Nous, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est surtout la culture la plus accessible. On a tous connu le Japon d'une manière ou d'une autre, donc que ce soit par les animés, même pour votre génération, donc c'était Club Dorothée, la génération de mon père c'était Goldorak, que nous c'était, enfin pour ma part, pour ma génération, c'est aussi les animés, mais surtout les jeux vidéo. Et en fait, quand on y réfléchit bien, c'était vraiment la culture la plus accessible sur tous les points. À titre perso, nous n'avions pas forcément accès, du moins ma génération, accès au musée facilement. Mais quand on avait les mangas, etc., on avait un peu cette possibilité de voyager à travers ces médias, tout
c'est
simplement.
Oui, un vrai engouement.
Et c'est vrai que les mangas traitent de tous les sujets, absolument tous, donc je pense que ça peut parler à tout le monde.
C'est vrai. Et les très jeunes sont très attirés par les mangas. Moi, j'ai autour de moi beaucoup de jeunes qui lisent surtout des mangas aujourd'hui. Donc,
Mais la France est le deuxième pays consommateur de mangas dans le monde. D'accord. Donc, ça explique aussi.
Oui, ceci explique cela. Et est-ce que les événements culturels dont vous êtes l'organisateur, si j'ai bien compris, chez HIS, est-ce qu'ils jouent un vrai rôle dans le rapprochement entre les cultures ?
Alors, chez HIS, je suis pas tout seul sur l'organisation des projets. Je donne les idées. J'ai une collègue qui s'occupe de ça, on va dire plus essentiel. On essaye de regrouper des projets franco-japonais pour vraiment faire des ponts culturels entre les deux pays. Donc, par exemple, prochainement, on va avoir une exposition d'une peintre française, mais qui fait que de la peinture japonaise, en fait.
D'accord. Vous pouvez nous donner son nom ?
Alors, je ne sais pas si c'est encore annoncé, mais c'est Solveig Sauvage.
On reste dans la confidence. Pardon.
Je pense qu'on peut le dire, mais bon,
Vous le relayerez sur vos réseaux.
Oui, voilà. Oui, bientôt, je pense. Parce que ça débute en avril, donc ça ne va pas tarder à être annoncé. Ah, ouais.
Et donc vous dites qu'il y a des vrais ponts entre la France et le Japon au niveau de la culture.
Oui, il y a des points communs, en fait. Il y a une certaine élégance, on va dire, dans les deux cultures qui fait que les deux se rapprochent pas mal. Il y a un intérêt commun, en fait. Les Japonais sont fans de culture française et les Français sont fans de culture japonaise. Donc, je pense que les deux ensemble font un beau mélange.
Et cependant, alors je pense qu'on en parlera peut-être plus aussi avec Antoine, mais il me semble qu'aujourd'hui, les Japonais n'ont pas tellement envie de voir débarquer des touristes.
Oui, c'est vrai qu'en ce moment, ça fait.
C'est paradoxal.
Oui. Ben, c'est pas tous, pas tous les Japonais, mais en effet, il y a un tel engouement envers le Japon qu'il y a pas mal de tourisme, tourisme, on va dire, où ils font un peu n'importe quoi, ils respectent pas la coutume locale, ils respectent pas la culture. Et du coup, ça agace quand même beaucoup de Japonais. Mm-hmm. Ce qui fait que, l'extrême droite passe pas mal au Japon en ce moment,
Oui, c'est le cas en France aussi,
Aussi,
tous les lieux,
dans pas mal de pays.
Les lieux emblématiques, comme le Mont-Saint-Michel, d'autres, les gens râlent parce qu'il y a beaucoup trop de visiteurs, en fait.
Exactement.
Ouais. Et, à votre avis, qu'est-ce que les Français aiment le plus dans la culture japonaise?
Ça va dépendre vraiment de chacun, mais si je parle pour moi, c'est la culture vraiment traditionnelle, la mythologie, etc., qui me plaît. Mais je pense que chez les Français, ça va être les animés ou les mangas qui plaît le plus, à mon avis. On peut le voir dans les Japan Expo, etc. C'est très flagrant.
La cuisine aussi, peut-être ?
La cuisine aussi, oui.
Vous-même, vous mangez japonais ?
Oui, très souvent.
Très souvent. Ouais.
Je baigne dedans, donc oui.
Je voulais ajouter un truc
aussi.
Ce qui est bon à savoir et qui fait un bon point commun entre la France et le Japon, c'est que les deux cuisines sont dans le patrimoine de l'UNESCO. On est les deux seuls. Donc la cuisine japonaise et la cuisine française, ils sont dans le patrimoine. Ça nous fait aussi un point commun également.
Ah oui, bien merci de cette précision parce que je l'ignorais. Merci beaucoup, Tariq. David, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre? Comme le temps passe, je ne veux pas vous...
Non, ça va. Non, je ne pense pas. Merci beaucoup pour ces questions.
Merci à vous. Merci pour ce travail de passeur culturel entre la France et le Japon. Et puis, n'hésitez pas à nous transmettre vos événements, qu'on puisse les relayer si vous le souhaitez.
Oui, j'ai un gros, gros projet qui arrive en 2026, début 2027. Je peux pas tout à fait dire ce que c'est parce que je vais l'annoncer sur les réseaux sociaux le 4 avril à 16h44 exactement. J'aurai 44 ans en fait ce jour-là.
Ah, d'accord.
Ah bon, plein de 4. C'est un chiffre, le 4, qui porte malheur au Japon.
C'est vrai?
Ouais, mais j'ai décidé de le transformer à l'inverse pour faire un très gros projet. Ouais.
Ah oui, incroyable. En France. C'est amusant parce que en France, c'est 666, je crois, le chiffre.
Le 4,
diabolique.
En fait, en japonais, shi, ça veut dire mort. Donc,
D'accord.
On ne la met pas dans les ascenseurs.
Exactement.
Ouais. Donc, vous allez, vous allez renverser les tendances.
J'espère que je réussirai, oui.
Bah, on vous le souhaite. Eh bien, bon anniversaire en avance.
Merci
beaucoup. David, merci beaucoup. Et puis, à bientôt, j'espère.
À bientôt.
Voilà, on marque une pause et on va faire place à la musique avec Billy Joel et son titre Honesty. Restez avec nous, on revient tout de suite après. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. From you, I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon.
IDFM 98 FM.
Nous voilà de retour et en attendant de pouvoir joindre Jean-François Benon, c'est reparti pour la suite de l'économie en direct sur EDFM Radio en compagnie de Tariq Aziz, directeur de l'association Yabai, David Croc, directeur du concept store HIS Paris et de la maison Kisuna, Antoine Chantavon, directeur de l'agence de voyage Kitsune Voyage et président de l'association Yabai, et Stéphanie Rouland, fondatrice de l'atelier Aoi. Alors, Tariq, vous, comment avez-vous connu David ?
Alors, comment on a connu David ? Alors, si je ne me trompe pas, c'est Antoine qui nous a présenté. Si, ouais, oui, c'est exactement ça. C'est Antoine qui nous avait présenté à ce moment-là, car David avait son salon de thé à ce moment-là sur Enghien-les-Bains.
Oui.
Et je ne rappelle plus c'était sur quel contexte, mais c'était une volonté de faire passer, je pense, du savoir, non ? Je ne me rappelle plus très bien de la rencontre. Je m'en vois, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est attaché à son salon de thé, nous et les jeunes. On ouais. était venus deux fois, il me semble. Mmh. La première fois pour vraiment faire une rencontre, tout simplement. Et la seconde fois, c'était pour faire une vidéo pour mettre en avant son commerce. Parce que les jeunes étaient très bons en création de contenu.
Ouais.
Donc, on avait fait une vidéo sur place. Et suite à ça, nous, on avait volonté de mettre en avant les acteurs du Japon sur tous les domaines, que ce soit des entrepreneurs, des créateurs de contenu, etc. Et nous, on avait demandé à ce moment-là à David d'être le parrain de l'association,
très
du moins
bien.
Du ah premier oui. projet, du coup, parce que l'association n'existait pas encore.
Mmh.
Et à ce moment-là, du coup, David avait fait passer un message pour les jeunes sur nos réseaux sociaux. Et les parrains pouvaient, s'ils le souhaitaient, bien sûr, offrir une contrepartie pour l'association. Alors, je me rappelle très bien, c'était des financiers. Ouais, c'était des financiers. En plus aussi d'un temps oui. avec les jeunes pour qu'ils puissent parler de son expérience, de la culture, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et bah, encore aujourd'hui, David est le parrain de maintenant de l'association.
C'est ça, vous suivez maintenant. Et
exactement.
On en parlera un peu plus tard, mais vous vous retrouvez sur des événements communs comme à Beaumont-sur-Oise, là, il y a quelques jours.
Exactement. Donc, ouais. Et même, on travaille ensemble. Du coup, vu qu'il a transitionné chez HIS,
oui, oui.
Il nous a introduit directement, très naturellement, au concept store. Et maintenant, on a, je ne sais pas si on peut dire comme ça, un sort de partenariat, de collaboration avec la boutique.
D'accord.
Donc, sous plusieurs formes, mais surtout sur la volonté de faire passer du savoir aux jeunes.
Très bien. Bah, écoutez, bravo pour cette belle mise en relation.
Merci, David.
Bravo à vous. Oui, David.
Parce que HIS a aussi un restaurant à Paris.
Ah,
et
d'accord.
En fait, on a fait un petit atelier onigiri pour les jeunes là-bas, en fait,
okay,
directement.
OK. Et donc, on peut connaître l'adresse de ce restaurant ?
Oui, c'est rue Pernetti, au métro Pernetti.
Très bien.
Ça s'appelle Kimola.
Très bien. Merci, David. Bon, on marque une pause et on fait une nouvelle tentative pour joindre Jean-François Benon.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
C'est toujours l'économie en direct et voilà, nous venons de joindre Jean-François Benon, directeur général du CEVO, l'agence de développement économique du Val d'Oise, une agence qui entretient depuis près de 40 ans une relation privilégiée avec le Japon et plus particulièrement avec la préfecture d'Osaka. Bonjour Jean-François.
Oui, bonjour.
Alors Jean-François, merci d'avoir accepté de pouvoir participer à cette émission, même si c'est via le téléphone.
Merci à vous de cette facilité, parce qu'effectivement j'enchaîne plusieurs réunions ce matin, c'était un petit peu compliqué d'être physiquement avec vous, mais je pense beaucoup à vous en tous les cas,
et à tous
ceux qui sont autour de vous.
Oui, parce que faire une émission sur le Japon sans le CEVO, ça n'aurait pas été complet. Jean-François avec nous, Tariq Aziz, David Croc, Antoine Chantavong, donc Stéphane Rouland, vous les connaissez tous ?
Bah écoutez, il y a tout un réseau dans le Val d'Oise, bien sûr, on se côtoie, on se croise. Il y a quelques jours, il y avait le festival Matsuri qui était à Beaumont-sur-Oise, et ça a été l'occasion pour notre collaboratrice qui est aussi très impliquée à mes côtés, Emmanuel Destieux, sur ses relations avec l'Asie, en particulier avec le Japon, de croiser la plupart d'entre eux. Et donc voilà, on a des occasions nombreuses, puisqu'il se passe en réalité depuis quelques années, d'ailleurs ce phénomène augmente, beaucoup d'activités, beaucoup d'initiatives, beaucoup de rencontres d'affaires autour du Japon. Ce week-end au château d'Auvers, nous étions co-organisateurs d'une rencontre autour du Japon et du cinéma, puisque nous avons été à l'origine, le CEVO a été à l'origine de la création dans le Val d'Oise du festival qui a pris de l'importance maintenant et qui est national, qui est le festival du film japonais contemporain Kinotayo. Avec nos collègues, nos amis de Kinotayo, nous avons pris l'initiative avec le Château d'Auvers, avec le centre, le comité d'échange franco-japonais, d'organiser des rencontres autour de la thématique Japon et cinéma. Et ça a été une après-midi très riche aussi ce samedi, voilà, à Auvers-sur-Oise.
Oui. Alors, en interviewant David Croc, je lui ai demandé ce qui provoquait l'engouement des Français pour le Japon. Sur le département, il y a près de 60 entreprises qui sont implantées dans
un
le département.
Un peu plus même, et pour tout vous dire, on va accompagner leur installation de nouvelles dans quelques semaines. On a à peu près 65 sociétés japonaises. Ça varie un peu le chiffre toujours, parce que certaines entreprises, ça dépend si on parle d'entreprises physiques ou si on parle d'enseignes. On a des entreprises qui ont à la fois au même endroit la filiale française et la filiale européenne, par exemple, voyez. Et donc, ça dépend. La comptabilité peut être un peu différente selon que l'on compte les entreprises juridiques ou les établissements physiques. Mais en tous les cas, on est autour de 65. Et dans les semaines qui viennent, pour tout vous dire, mais c'est déjà connu, une très très belle entreprise japonaise qui est filiale du groupe Kikkoman, qui est une grande société japonaise historique, va s'installer dans près de plus de 10 000 mètres carrés de locaux, avec le siège social et le centre de distribution pour la France. C'est la société Japan Food Corporation qui va s'installer à Beauchamp dans un bâtiment ultra moderne avec son siège social. Voilà, on est très heureux de les accueillir. Cette société, comme d'autres, vient compléter plus de la soixantaine de sociétés japonaises déjà installées. Et puis on a également, dans quelques semaines, il y aura sans doute l'inauguration du nouveau centre de recherche européen de la société Daito Kasei, qui est une société d'Osaka dans le domaine de la cosmétique, que nous avons accompagné depuis sa toute première implantation il y a plus de 15 ans dans le Val d'Oise. Aujourd'hui, ils ont construit un nouveau bâtiment ultra moderne qui n'est pas inauguré encore, qui était installé depuis quelques semaines à Frépillon et qui est en fait le centre de recherche européen de cette société cosmétique, qui a déjà une usine qu'elle a ouverte il y a une quinzaine d'années à Frépillon et qui avait installé au tout début son centre de distribution et européen dans le Val d'Oise. Voilà, on a des entreprises japonaises qui sont toujours extrêmement fidèles. C'est pas toujours le cas. Une entreprise peut avoir des évolutions. La plupart de nos sociétés japonaises, la grande majorité des sociétés japonaises, une fois qu'elles ont fait le choix du Val d'Oise, elles sont très fidèles à notre territoire. Je pense à la société Kubota, qui est à Argenteuil, qui est une très grande société historique installée depuis la fin des années 70 dans le Val d'Oise. Eh bien, elle est toujours fidèle à Argenteuil. Elle se développe, elle s'est agrandie successivement. Et ce phénomène, on le voit dans la plupart des sociétés japonaises. Beaucoup de fidélité, mais c'est un trait, vos invités le savent aussi bien, sinon mieux que moi, c'est un des traits de caractère des Japonais. Ils sont parfois un peu compliqués à convaincre, mais ensuite leur fidélité est tout à fait impressionnante, et c'est le cas dans la sphère économique également.
Et qu'est-ce qui attire justement ces entreprises en France ?
Bah écoutez, d'abord, la relation entre la France et le Japon est vraiment très historique. On va fêter la 170 années de relations diplomatiques entre la France et le Japon depuis la réouverture du pays à la fin des années 1800. La France et le Japon ont toujours eu des relations extrêmement solides. Donc, il y a une histoire commune forte, évidemment. Il y a des sensibilités très proches entre les Japonais et les Français également, malgré la distance et les cultures différentes. Et puis, il y a la France qui est perçue en Europe comme une tête de pont pour l'accès au marché européen. Alors, pendant des années, l'Angleterre, la Grande-Bretagne et l'Allemagne avaient beaucoup la cote chez les Japonais quand il fallait ouvrir une filiale européenne. Ils pensaient sans doute des raisons, que les Allemands étaient plus tournés vers l'industrie, que peut-être les Anglais étaient plus ouverts à la finance et au monde de... Mais avec le Brexit d'un côté et avec les difficultés que rencontre l'Europe en général et même l'Allemagne aujourd'hui, on a effectivement depuis maintenant une vingtaine d'années un tropisme de beaucoup de sociétés japonaises qui considèrent que la place de la France et en particulier de la région parisienne de la desserte aéroportuaire avec le nombre de connexions, de la localisation peut-être plus centrale vers les marchés du sud en France, fait que beaucoup de sociétés japonaises estiment que s'installer autour de Paris est un bon choix pour attaquer le marché européen. Mm-hmm. Et ce phénomène a plutôt tendance à s'accélérer depuis quelques années. On a des exemples d'ailleurs tout à fait frappants. Je pense à la société Morisei Ki qui avait décidé de mettre son siège européen à Düsseldorf. Et puis un beau jour, on a reçu, nous, dans notre bureau qui est situé dans l'aéroport Charles de Gaulle, le représentant de Morisei Ki qui est venu nous voir en nous disant « Écoutez, mon président a décidé qu'il fallait installer le bureau dorénavant en France et on les a aidés à trouver un terrain avec nos collègues de Roissy. Et aujourd'hui, cette entreprise, Mori, est toujours installé avec son centre de formation européen, son siège social européen et son showroom européen à quelques minutes des terminaux de l'aéroport Charles de Gaulle. Évidemment, c'est un atout d'avoir un aéroport en termes de centralité et de desserte, et c'est une des raisons qui explique aussi le succès du Val d'Oise.
Alors, pour avoir échangé avec Emmanuel Destieu, j'ai compris que vous étiez très investi également auprès de l'association Yabai. Oui. J'imagine que vous avez dû accueillir avec un réel enthousiasme un projet tel que celui de Yabai.
Bah, écoutez, on peut dire ça, je crois, et je pense que Kelly pourra vous le confirmer. En fait, cette affaire a commencé parce que c'est vos confrères, en réalité, qui nous ont alertés. On avait identifié un beau jour dans la presse locale un petit article qui évoquait le projet d'une équipe de jeunes au nord de la vallée de l'Oise, là, qui était engagée dans des projets autour du Japon. Il y avait eu un article dans la presse locale qui ne nous avait pas échappé, comme quoi finalement la presse c'est important pour déclencher les informations. Pour être honnête, on n'avait pas de contact avec eux. On les a découverts par l'intermédiaire d'un petit article qui paraissait comme ça un petit peu anodin et qui évoquait effectivement cette initiative autour de jeunes persans et de Beaumont et qui consistait à lancer une initiative pour essayer d'amener un groupe de jeunes de ces villes vers le Japon. Alors quand on voit marqué un projet autour du Japon, ça nous alerte.
C'est comme ça. Vos antennes se mettent en veille.
Absolument. Et comme on n'était pas au courant, on a quand même voulu savoir de quoi il s'agissait. Je crois qu'on a contacté Tariq Aziz et les équipes. Et on a dit, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se connaisse. Voilà. Et c'est l'affaire est née comme ça. Ils sont venus à plusieurs, d'ailleurs tout de suite nous voir, hein, parce qu'ils fonctionnent beaucoup en groupe, nos amis, et ils sont venus nous voir dans nos bureaux à Cergy, et puis on a passé un très très bon moment à partager, à discuter. On a compris un petit peu quelle était l'origine de cette initiative et quelle était surtout son originalité, parce que là on est vraiment dans une initiative extrêmement originale et extrêmement, extrêmement heureuse sur la façon de voir les choses pour inciter comme ça des jeunes à se mobiliser par eux-mêmes. On n'est pas dans l'assistance, on n'est pas dans le soutien financier, on n'est pas dans la revendication, on est dans des jeunes qui décident de se prendre en main et qui ont un objectif autour de ce pays magique qu'est le Japon. On a trouvé que c'était une approche à la fois nouvelle, originale, très ambitieuse et très motivante pour les jeunes. Et puis on a décidé, avec les moyens qui sont les nôtres, mais surtout en notoriété, en dynamisation de leur projet, de les accompagner. Et puis très vite, on avait prévu, comme c'est le cas régulièrement, une mission avec des entrepreneurs au Japon. Et on leur a proposé pour certains d'entre eux de se joindre à cette mission pour qu'on puisse aussi les présenter à la fois des entrepreneurs du Val d'Oise à des responsables institutionnels évidemment du Val d'Oise, puisque cette mission était aussi animée par la présidente du conseil départemental et plusieurs élus du département, et puis pour les présenter aussi à nos amis et à nos collègues d'Osaka, parce que c'est important qu'ils puissent avoir aussi des ramifications dans cette région d'Osaka. Ils avaient commencé par une initiative à Tokyo, ils avaient eu raison. Mais la deuxième aventure, ça a été Osaka, avec notre appui. Et aujourd'hui, par l'intermédiaire du bureau que l'on a à Osaka et de Monsieur Nakajima, qui est son directeur sur place, ils sont parfaitement identifiés dans l'écosystème franco-japonais du Kansai, de la région du Kansai. Et je crois que cette initiative, elle a beaucoup surpris les Japonais également. Voilà. Donc on les apprécie beaucoup, on les aime beaucoup et on les encourage à continuer. Et ils sont plein de projets, et ils ont dû vous le dire. Ils ont même des projets ambitieux dans les semaines qui viennent autour d'un emblème de notre pays qui parle beaucoup aux Japonais. On espère être à leur côté pour cette aventure.
Ben on l'espère pour eux. Je crois que merci Jean-François. Je crois que Tariq veut vous dire un mot.
Avec plaisir.
Monsieur Belon, je voulais vous dire merci. Merci pour ces gentils mots et merci pour le soutien que vous nous avez offert au sein de l'association et surtout au sein des jeunes. Donc merci pour les mises en relation, l'invitation à Osaka, car ça a été un vecteur d'opportunité important pour nous. Et comme je dis souvent, quand on tend la main à la jeunesse, juste un simple geste très simple peut les emmener super loin. Donc on vous remercie du fond du cœur.
C'est très très sympathique, mais on est convaincu que c'est que le début. Aujourd'hui, il suffit de voir toutes les initiatives que vous avez arrivé à prendre. Nous, on est persuadés que vous avez lancé quelque chose qui va rapidement vous dépasser, mais au bon sens du terme. Parce que cette initiative, elle est à la fois bien sûr symbolique sur cette relation franco-japonaise. Et comme on l'a dit en début tout à l'heure, il y a actuellement un engouement très de plus en plus fort des Français pour le Japon et donc des jeunes Français pour le Japon, et donc c'est un vecteur pour déclencher des envies et des initiatives, et ça vous l'avez compris bien avant d'autres. C'est la première chose, mais surtout, nous ce qui nous frappe beaucoup, c'est comment vous arrivez à déclencher des capacités pour ces jeunes à se prendre en main et à ne pas être dans ce qu'on voit trop souvent, ces demandes reconventionnelles pour aller chercher de l'argent public ou aller demander de l'argent. Vous dites qu'il faut qu'on se prenne en main et qu'on trouve les moyens de financer nos projets. Ça c'est quand même tout à fait exemplaire, et c'est bien, pour être honnête, et je termine là-dessus, c'est bien dans la mentalité japonaise de se prendre en main comme vous le faites. Et je crois que c'est aussi pour ça que cette association, elle plaît à nos collègues et à nos amis japonais, parce qu'elle est suffisamment originale par cette capacité de se prendre en main qui ressemble un peu à ce qu'on appelle en japonais le Bushido. Bushido, c'est l'esprit du samouraï. Vous êtes complètement dans l'esprit du samouraï, et cette équipe de petits samouraïs que vous aidez à faire éclore, je vous assure que ça plaît beaucoup aux japonais. Voilà. Et donc j'ai beaucoup de confiance sur les futures étapes de l'aventure.
Merci pour votre confiance, Monsieur Benon.
Ben écoutez, en tout cas, nous, on est aussi très enthousiastes de pouvoir rencontrer Tariq Aziz. J'avais eu l'opportunité de participer à la remise des trophées des talents là au mois de décembre à l'école Hésiod.
Absolument, une belle reconnaissance de plus.
Et je pense qu'IDFM va aussi s'investir pour suivre Yabai, parce que voilà, je pense que on y a tous à gagner en visibilité et en humanisme, hein, en tout cas.
Mais absolument, on le confirme, mais vous savez que cette association, mais Tariq a dû vous le dire, elle est aujourd'hui reconnue, y compris par l'ambassade de France, l'ambassade de Japon, du Japon à Paris, par l'ambassade de France au Japon, par le GETRO, qui est le centre du commerce extérieur japonais, qui a un bureau à Paris. Enfin, je veux dire, toute la sphère au plus haut niveau japonaise en France, j'ajoute le comité d'échange franco-japonais, qui est quand même
l'association votre fameux comité,
dont je suis un des administrateurs et qui est co-animé avec Monsieur Restino et Monsieur Pierre Cuchely, bien connu dans le Val d'Oise, évidemment. Autour du comité d'échange franco-japonais, il y a aussi un appui formel qui est apporté et une reconnaissance à cette association. Ça veut dire que tout l'écosystème institutionnel aujourd'hui japonais en France a déjà commencé à bien identifier ce qui se fait dans le Val d'Oise autour de Yabai. C'est quand même une superbe reconnaissance quand on sait le niveau d'exigence des Japonais. Les Japonais ne donnent pas facilement leur confiance, mais une fois qu'ils l'ont donné, je peux vous assurer que c'est du solide et du sérieux. Donc bravo en quelques mois pour avoir monté cette association et avoir obtenu ce niveau de reconnaissance de la sphère japonaise. Encore une fois, c'est la plus belle reconnaissance du sérieux et de l'ambition de cette aventure collective avec ces jeunes du Val d'Oise.
Eh bien, écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler souvent sur IDFM Radio. Merci infiniment, Jean-François, pour cet éclairage sur les liens économiques et institutionnels entre nos territoires et le Japon. Et encore merci pour cette intervention.
Mais merci à vous et à distance, et puis plein d'énergie pour tous vos invités dans cette aventure franco-japonaise que le Val d'Oise accompagne avec bonheur, évidemment.
Merci, à bientôt, Jean-François.
À bientôt, merci à vous. À
très
bientôt.
Voilà, on fait un nouveau break et on écoute Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Merci d'être resté avec nous, c'est l'économie en direct et ce matin nous avons un spécial culture japonaise, franco-japonaise on va dire, en compagnie de Tariq Aziz, directeur de l'association Yabai, David Krog, directeur du concept store HIS Paris, Antoine Chantavon, directeur de l'agence de voyage Kitsune Voyage et président de l'association Yabai, Stéphanie Roulant, fondatrice de l'atelier Aoi, et Jean-François Benon, à qui nous venons de donner la parole, directeur général du CEVO, l'agence de développement économique du Val d'Oise. Alors, Tariq Aziz, normalement, j'aurais dû commencer avec vous, mais les contraintes horaires font que je ne vous donne la parole que maintenant. Tariq, vous êtes originaire de Persan et vous m'avez rappelé que nous étions rencontrés à la MJC de Persan lors d'une interview dans le cadre d'un appel à projet d'IDFM Radio destiné à produire un podcast de lutte contre les RICS.
Exactement.
Mais c'est vrai, comme on s'était présenté par les prénoms, j'avais pas retenu que c'était vous. Aujourd'hui, vous êtes le fondateur de l'association Yabai, une structure qui construit des ponts donc entre les jeunes et le Japon. On a compris que cette structure avait beaucoup de succès par son originalité. Racontez-nous votre parcours, Tariq.
On commence par l'histoire, du coup. Oui. Comment a été créée l'association? Oui. Alors, tout part.
Peut-être même votre parcours juste avant, peut-être l'association.
Ah, ok. Alors, à titre perso, moi, j'ai commencé en tant que vendeur en téléphonie, précisément pour la marque Xiaomi, une marque chinoise, à mes 18 ans. Donc, une fois que j'ai eu mon bac pro, j'ai direct travaillé. Je savais pas trop ce que je voulais faire plus tard. J'avais juste des rêves, plein de rêves. Je voulais faire du jeu vidéo à la base. Je voulais être game designer. Et pour ça, il fallait payer une école privée. Donc, je me suis dit, je vais travailler pour avoir mon école. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que suite à un client qui est venu, qui travaille dans le monde du jeu vidéo, qui m'a un peu dégoûté du métier. Donc, c'est-à-dire que je suis resté vendeur pendant environ 3 ans, jusqu'à que les boutiques ferment, malheureusement. Donc, j'ai été licencié économiquement. Et du coup, j'avais le droit à 2 ans de chômage. Et du coup, je me suis dit, autant en profiter. Et je me suis mis pour le coup bénévole dans la MJC de Persan. Je voulais faire animateur. Donc j'ai fait animateur pour les jeunes. Et j'ai profité de ces 2 ans pour augmenter mes compétences. Étant donné que j'ai pas un long parcours scolaire. Donc je voulais faire l'autodidacte. Donc ma première année c'était principalement dans la mode. Et suite à un voyage au Japon qui m'a profondément marqué. Parce que j'ai réussi à le financer tout seul et que j'ai pu réaliser un second rêve qui était de visiter un studio de jeux vidéo.
Oui.
Un studio de jeux vidéo ultra prestigieux du coup. Par culot d'ailleurs, en me faisant passer pour une marque de vêtements, pour être honnête, pour l'anecdote, je me suis fait passer pour une marque, je leur ai dit je voulais faire une collaboration avec eux, c'est passé, donc plus c'est gros, plus ça passe. Suite à mon premier voyage au Japon, en 2022, en prenant des vidéos pour les jeunes de la MJC de Persan, qui je voulais leur faire découvrir le pays, ils ont lâché une phrase qui m'avait beaucoup marqué, qui disait « on espère qu'on sera plus grand qu'on pourra aller au Japon ». Moi, j'avais 22 ans à ce moment-là. Je ne considère pas aussi vieux que
ça. Oui.
Je me suis dit, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Et du coup, on s'est lancé dans un défi qui s'appelle La Cité à Tokyo. Et le but, c'était de ramener 13 jeunes du quartier, tout simplement, à Tokyo pour leur faire découvrir le Japon.
C'est passionnant.
Et du coup, le défi, je l'ai proposé à la MJC de Persan en tant que porteur de projet. Ils ont accepté. Et au départ, nous, on connaissait pas trop comment on allait faire. Moi, je venais un peu du milieu entrepreneurial. Donc, je me disais, on va faire des actions. Au départ, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a joué sur la carte du mécénat. Mm-hmm. Donc, on a fait, entre guillemets, au début, l'erreur de demander de l'argent à tout le monde.
Oui.
On a demandé des subventions, on a essayé de demander de l'argent aux entreprises. Et à ce moment-là, je me basais surtout sur la structure elle-même, donc la MJC, pour faire ça. Et il s'avère qu'on a eu aucune des subventions.
Ah oui.
Et on a eu quelques mécènes. Et j'insiste bien sur une chose, c'est que c'est les jeunes qui ont trouvé ces mécènes. Et puis après, plus rien. Au moment où on a manqué toutes ces subventions, moi j'étais parti pour un second voyage tout seul au Japon pour aller trouver encore des entreprises qui pourraient nous payer le voyage. Et quand je suis revenu, ces jeunes-là, ils étaient démotivés. Démotivés.
Oui, complètement.
On va jamais y arriver en fait. Autant faire la cité à Fontainebleau, ils disaient ça comme blague en fait. Ils disaient, autant aller en Bretagne, laisser tomber. Et je dis non, nous on va pas abandonner parce que nous on n'abandonne pas. C'est pas normal. C'est pas parce qu'on s'est mis des freins que on va pas pouvoir réussir. Et du coup, ce qu'on s'était mis comme défi, c'est que pendant les vacances, enfin, c'était des vacances scolaires, on a appelé tout le monde. On a appelé de l'aide de tout le monde et on a trouvé quelques pistes de mécènes et qui étaient prêts à nous aider. Et en fait, le déclic a eu lieu le jour où un de mes jeunes, qui s'appelle Mamadou, cherchait un stage au lycée. Et il a fait 100 entreprises et 100 lui ont dit non. Il est venu vers moi et il me dit oh, « Tariq, s'il te plaît, prends-moi en stage ». Je lui dis « Non, tu vas chercher ». Je vois le papier, il y a écrit « 100 refus ». Il dit « Bon ». Et en fait, je voulais lui donner une leçon. Je voulais pas lui faire un stage bidon. Je lui dis « Tu sais quoi ? Tu vas créer ta propre entreprise. Donc, je vais te prendre en stage, mais je vais te donner une base qui est l'entrepreneuriat. Je vais t'apprendre à faire un business et tu vas faire un business et voilà, ça va être ça ton stage ». Je lui ai donné le document pour lui faire. Il m'a dit « Bah, tu sais quoi, Tariq, pour financer le voyage au Japon, bah, je vais faire un pop-up store de Nigiri ». Et c'est là où tout a commencé et c'est là où on a eu le déclic sur l'entrepreneuriat.
D'accord.
Donc Mamadou, ce qu'il avait fait, il est parti jusqu'à Paris faire l'espion, à regarder les restaurants d'onigiri existants. Mmh. Il est parti trouver le même riz que un grand restaurant à Paris qui font que des onigiri. Mmh. Il a tout analysé et il a proposé ses onigiri à la vente pendant des événements à Persan. Ça a eu un tel succès qu'il a même eu un article dans la Gazette du Val d'Oise.
D'accord.
À ce moment-là. Et du coup, grâce à ça, on a eu même deux articles. Et c'est là, à ce moment-là,
c'est
qu'on a eu le déclic.
Oh,
exactement. Et en fait, il a été malin sur une chose, Mamadou, c'est que, à défaut de demander de l'argent aux entreprises, il a juste demandé de la matière première.
Oui.
Donc, à défaut, voilà, il demandait, on a été à un sushi du coin, on leur a dit, est-ce que vous pouvez faire un don mécénat? C'est pas possible. Bon, bah, vous pouvez nous donner un sac de riz. Ça, c'est possible, mais avec un sac de riz, on a fait 800 euros.
Ah
par
oui.
exemple.
Oui, formidable.
Donc, c'est ça. Donc, on a changé la donne. Donc, on a arrêté de demander de l'argent, on a demandé juste du matière première, des conseils, etc. Et grâce à ça, on a pu lever 35 000 euros
en
quelques mois, en fait. Et on a fait aussi beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, ces jeunes-là, ils ont appris l'entrepreneuriat, la communication, le culot aussi.
Étaient combien ?
Ils étaient 13.
13.
Et ils avaient entre 14 et 18 ans. Donc, ils y avaient tout âge. Donc, il y avait des cadets, il y avait des majeurs. Et grâce à ça, ils ont levé leur somme. Et ils ont pu partir en avril 2025 à Tokyo, tous ensemble, en autofinancement. Et j'insiste bien sur toutes les marques qu'ils ont trouvées à eux tout seuls, Sony, Japan Airlines, Capcom, vraiment à eux tout seuls. Ils sont partis en avril et au moment où ils sont partis, ils ont fait des rencontres. J'en ai un qui a trouvé du travail au Japon, en pâtisserie. D'autres qui sont réorientés scolairement, donc ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire plus tard.
Oui, parce que ça leur a donné une sorte d'espoir et puis de...
Exactement, en fait, c'est satisfaisant.
D'envie d'aller plus loin.
Exactement, ouais. Ils se disent, on est dans un pays où on pensait qu'on n'allait jamais aller. Ils ont fait des rencontres de personnes qui sont... En fait, on a beaucoup de parrains, donc des créateurs de contenu, des entrepreneurs qu'ils ont rencontrés et qui les ont inspirés. Et quand ils sont arrivés sur place, ça a été un déclic total, que ce soit d'un point de vue culturel, que ce soit d'un point de vue d'opportunité. Mmh. Et voilà, donc une fois revenus à Persan, ils avaient des étoiles plein les yeux et une volonté de prendre le monde, tout simplement.
Et puis surtout de se dire, rien n'est impossible.
Exactement.
Hein, c'est vraiment,
exactement.
Je pense que c'est quelque chose qu'on garde en soi définitivement.
C'est notre proverbe d'ailleurs, on rend possible l'impossible.
Oui.
Et d'ailleurs, suite à ce voyage, du coup, j'ai eu le déclic en me disant, mais en fait, on a répondu à énormément de problématiques. Donc, j'ai décidé de créer l'association, donc Yabai, qui veut dire incroyable, génial.
Ah, voilà, j'allais vous demander pourquoi Yabai.
Ça veut dire incroyable, génial, super en japonais. En fait, ça a deux sens, si vous voulez. C'est un mot d'argot, donc c'est devenu de l'argot. En fait, les jeunes, ils l'ont réutilisé pour dire que c'est mortel, c'est incroyable.
Ah oui, oui, oui.
Mais en fait, à la base, en japonais, ça veut dire ça craint.
D'accord,
ça craint,
d'accord.
C'est dangereux, risqué, ouais, c'est chaud. Et en fait, les jeunes, ils l'ont modifié. Et du coup, ça a un peu, si vous voulez, fait sens pour nous, dans le sens, c'est notre histoire, en fait. On a pris des risques pour pouvoir partir. Mmh. Et si on ne prend pas de risques, on n'ira pas aussi loin. Et grâce à ces risques-là, regardez où on en est maintenant.
Formidable. Tariq, je propose qu'on fasse une pause et on écoute M avec son titre « Je dis M ».
Je moissonne sans bousculade. Je dis aime et je le sème sur ma planète. Je dis aime comme un emblème, la haine je la jette. Je dis
IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
C'est toujours l'économie en direct. Ce matin, nous parlons de l'association Yabai en compagnie de Tariq Aziz, David Croc, Antoine Chantavong, Stéphanie Rouland et Jean-François Benon. Tariq, Jean-François Benon en a parlé. Il y a eu l'événement Matsuri il y a quelques jours. Vous vous êtes tous retrouvés avec Stéphanie Rouland, David, Antoine, bien sûr. Ce genre d'événement aussi est important pour Yabai.
Exactement, oui. Alors c'est très très important parce que nous les objectifs ils sont quasiment doubles, qui est que quand on est à ce genre d'événement, on fait un peu de vente pour financer les voyages, mais surtout on réseaute. C'est très important pour nous et surtout pour les jeunes de découvrir d'autres acteurs autour du Japon, d'autres entrepreneurs. Donc ça les force à entre guillemets combattre leur timidité et nous à nous créer un nouveau réseau, surtout d'entraide. Donc oui, c'est très important pour vous dire, si on n'a pas fait enfin l'année dernière en faisant référence au premier voyage, si on n'avait pas été à la Japan Expo, à la Paris Games Week et tous les événements autour de la pop culture, la culture japonaise, on n'aurait pas été aussi loin et aussi vite, parce que c'est très important, mais vraiment très important de réseauter, de faire des rencontres, d'aller voir les gens et surtout de collaborer. Enfin, c'est très japonais. D'aller dans la collaboration, d'accompagner, que ce soit win-win pour tout le monde. Donc oui, c'est Matsuri par exemple, au-delà de la mission principale, c'était de la vente, on était agréablement surpris d'avoir pu
Ah oui, c'est un événement incroyable, voilà. Hein, avec les justement les gens costumés. Enfin, ouais. C'est vraiment. C'est
exactement. C'était vraiment l'épicentre de la culture japonaise. Ah oui, il y avait pour tout le monde, ouais. Que ce soit culinaire, que ce soit manga, que ce soit les divertissements, que ce soit du dessin, de l'art. Il y en avait pour tout le monde. Et nous, on représentait du coup, moi, ce que je dis, la détermination. Donc nous on avait notre petit stand, on vendait des sweats et des t-shirts, mais en fait ce qui était beau dans ce stand, c'est que la difficulté qui a été pour les jeunes, c'est que c'est des sweats très simples avec juste le logo de notre association. Ils ont quand même fait plus de on va dire de dons que de ventes, parce qu'ils ont surtout vendu leur projet, oui. Ils ont surtout vendu leur rêve auprès des gens, et c'est comme ça qu'ils se sont attirés de nouveaux partenaires pour Yabai. Pour l'anecdote, pour vous dire, un jeune de 15 ans m'a permis d'avoir une collaboration avec Kewpie. Vous savez, c'est la mayonnaise japonaise. C'est juste parce qu'on a été dans un stand. Mm-hmm. Ils étaient à droite, ils sont partis les voir. Ils ont dit, vous pouvez nous donner la mayo? Ils ont dit oui. Et, ah, ok. Bon, on vous donnera toute la mayo qu'on veut. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est vraiment, il faut... voilà, c'est très important pour nous,
oui,
ce type d'événement.
Il faut oser, faut oser.
Exactement.
Stéphanie, vous connaissiez Tariq Aziz avant de participer à cet événement de Matsuri?
Alors, j'en avais entendu parler, enfin, je les avais vus au travers des réseaux sociaux, et j'ai fait le rapprochement quand, effectivement, on nous a présenté à Beaumont-sur-Oise.
Oui, très voilà. Bien. Donc, une belle rencontre,
tout
certainement.
Exactement, oui. Surtout des jeunes motivés, mignons, qu'on a envie d'effectivement d'écouter et d'accompagner.
Merci Stéphanie Roland. Alors, Tariq, vous, là, votre projet, votre prochain projet, c'est emmener des jeunes de la protection de l'enfance au Japon, dans la région rurale de Tottori, c'est
exactement.
Ça?
Exactement. En fait, on a plusieurs projets. On a deux projets de voyage, en fait. Donc, le voyage principal qui est la cité à Tokyo, donc notre fil rouge. Et en fait, cette année, on a sorti un inédit, entre guillemets, qui s'appelle la cité à Tottori. Pour l'anecdote, en fait, Barbès Magazine nous a offert des billets d'avion. Donc, c'est un prestigieux magazine qui est présent en France et aussi en Asie.
Barbès Magazine, c'est un magazine japonais?
Non, c'est un magazine français.
Oui,
Barbès Magazine,
oui,
en référence à Barbès.
Oui, à Barbès, oui.
Et ils nous ont contactés, ils ont dit, on aime bien vos actions, on va vous offrir des billets d'avion.
Ah là là,
alors,
formidable.
On est 13, ils nous en offrent 4 ou 5. J'ai dit, je vais pas économiser de l'argent en prenant en charge l'équipe principale, parce que je sais qu'ils vont réussir à s'autofinancer. On va faire plus fort, on va les offrir à la protection de l'enfance. En fait, pour vous raconter très rapidement une anecdote, on est parti à la mission de délégation à Osaka avec le Val d'Oise. On n'a pas fait complètement la mission avec eux, c'est-à-dire qu'on a fait notre propre mission et on a été invité à Tottori auprès d'un agriculteur franco-marocain qui habite là-bas, qui nous a fait découvrir Tottori et Kurayoshi dans sa ville. On est resté que 24 heures, moi et les deux Adam, les deux jeunes qui m'accompagnaient. Et en fait, au moment où on est arrivé sur place, ça a été une grosse claque. Mais on est resté 24 heures, mais ça a été une grosse claque. Dans le sens, ça a été peut-être le voyage le plus marquant de notre vie. Parce qu'on est rentré dans quelque chose de très simple, très intimiste. C'était culturellement fort, en fait. Et pour vous dire, on est ressorti transformé. Et moi, j'ai réfléchi longtemps à ce voyage. Pour vous dire, j'étais à la limite... touché, parce que le côté humain même de la personne qui est Farid, en fait, au-delà de la personne et aussi du lieu, nous a beaucoup touché et à la limite du transformé. Je me suis dit, nous ça va, on se porte bien, mais imaginez des jeunes qui ont vraiment besoin. À ce moment-là, ça me trottait dans la tête et je me suis dit, un jour, dans quelques années, je vais faire partir la protection de l'enfance. Et il s'avère qu'il y a eu un miracle, on a eu le don des billets d'avion et du coup, on a décidé de créer la cité à Tottori et l'objectif, c'est de faire partir ces jeunes-là fin septembre pour un voyage de reconstruction. Donc c'est un accompagnement sur toute l'année et leur faire découvrir Tottori. Et en plus, il y a un documentaire sur le sujet. Donc on va filmer là-bas sur place et on va filmer la transformation de ces jeunes. Qu'est-ce que ça pourra leur apporter?
Vous allez rester combien de temps?
12 jours.
12 jours, oui, c'est bien. C'est
oui,
bien.
12 jours, ils vont découvrir Kurayoshi et Matsuri.
Mais alors, je voudrais connaître le pont entre vous deux avec Antoine. Antoine, vous connaissiez avec Tariq avant cette association Yabai?
Alors, en fait, ce qui s'est passé pour donner l'origine de notre relation, c'est grâce à la presse, en fait.
Ah oui.
J'ai découvert dans la gazette locale que Tariq avait initié un projet sur le Japon.
Comme Jean-François Benon, donc.
Exactement, donc sur la gazette du Val d'Oise. Et en fait, moi, j'étais en train de démarrer mon activité d'agence de voyage il y a 2 ans. Et du coup, j'ai trouvé déjà le projet quand même vibrant, inspirant. Et moi, j'étais dans ma phase où, effectivement, j'avais besoin de me lancer, de me faire connaître. Donc, c'était aussi une occasion.
Oui,
de,
vous aviez, voilà, c'était donnant-donnant, gagnant-gagnant, on va dire.
Gagnant-gagnant, exactement. Oui. Et du coup, je me suis présenté et j'ai voulu m'investir, en fait, dans le projet en tant que en mécénat de compétences, tout simplement. Mm-hmm. Et donc, ça a été une dynamique. C'était tout de suite une dynamique. On a fait des rencontres, on allait au salon du tourisme. J'ai présenté des acteurs comme des compagnies aériennes avec qui, justement, on a des partenariats. Et en fait, de fil en aiguille, on a tout de suite réseauté, rencontré des gens qui ont été, inspirés par le projet et qui ont contribué. On a un contributeur anonyme dont on doit taire le nom parce que on peut pas
oui,
le dire.
Il ne veut pas être cité, oui.
Et qui a contribué à hauteur de 8000 euros, ce qui n'est pas rien.
Ah oui.
Qui est quand même un petit déclencheur. Donc c'est un contact personnel et qui a été, qui a été attentif. Qui a été attentif au projet parce que lui aussi, il est issu de banlieues difficiles. Et lui, maintenant, il est chef d'entreprise. Il a les moyens maintenant. Mm-hmm. Et quand il a vu le parcours de ses jeunes...
Il a envie de rendre ce qu'il a... Oui, oui,
exactement. Et quand il a vu... le projet, il a voulu rendre lui ce qu'il a gagné pour justement donner cette chance à ces jeunes de partir.
Plein de belles valeurs.
Exactement, oui.
On est d'accord. Tariq, alors vous avez été lauréat, hein, j'en ai dit un mot aussi, vous avez été lauréat des trophées des talents organisés par Hakim Khan Mouche de la DETS. C'est là où moi je vous ai aussi redécouvert sur votre vidéo que vous aviez, puisque vous étiez vous n'étiez pas présent physiquement, mais on vous a vu dans une vidéo. C'est une vraie reconnaissance ce trophée.
Oui, parce que c'était une vraie reconnaissance, parce que ce que je disais, c'est que c'était mon premier trophée de ma vie. Je n'ai jamais eu auparavant. C'était mon premier trophée.
Mais
il est en bois.
Il y en aura sûrement d'autres, hein,
Sûrement. Nous, on le fait pas forcément pour les trophées ou la reconnaissance. On le fait surtout pour les jeunes, avant tout. Mais oui, ça a été une vraie reconnaissance. Et moi, ça m'avait beaucoup touché, sachant que je suis parti le récupérer ensuite à la DD. Alors, comment on dit? Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. J'arrive pas à dire DDETS, c'est ça?
La DETS,
on est parti la récupérer sur place à ce moment-là. Et donc oui, et surtout que la vidéo a fait son petit effet, parce que encore une fois, des gens m'ont recontacté ensuite derrière. Donc vous m'avez rencontré là-bas, du coup vous m'avez découvert là-bas. Et aussi d'autres acteurs comme ESDEM 404 qui nous accompagnent maintenant
sur
nos projets.
Sébastien Ayer.
Exactement, qui nous accompagne désormais sur nos projets. Et c'est des tremplins et dont j'en suis très fier.
Vous pouvez. Alors aujourd'hui, vous recherchez quand même des mécènes et des partenaires, hein, puisque l'aventure doit continuer. Comment les entreprises peuvent soutenir votre projet ?
De plein de manières. Alors nous, on a quand même une stratégie qui est peut-être dangereuse pour une association, c'est qu'on demande pas tout de suite de l'argent. De toute façon, on c'est pas dans notre...
Vous essayez de convaincre au départ.
Au départ, en fait, on demande surtout des conseils. Des dons, en fait, en nature, tout simplement. Après, souvent, si c'est possible, bien sûr, du mécénat financier, clairement. Donc, nous, on a des besoins, surtout pour cette année. Si vous voulez participer au financement d'un des voyages, que ce soit pour la protection de l'enfance ou le voyage principal, vous pouvez, sachant que c'est défiscalisable. Sinon, si vous voulez quand même apporter votre pierre à l'édifice, si vous avez, je sais pas, des machines pour la cuisine ou des conseils ou un accompagnement, une salle, peu importe, n'hésitez vraiment pas, ça peut être du mécénat de compétences et on est tout ouvert à ça. Et si vous voulez même faire des collaborations à long terme, c'est ce qu'on fait actuellement avec des entreprises japonaises, on peut le faire également, ce sera avec plaisir tant que ça inspire les jeunes et que ça leur offre des opportunités.
Super. Écoutez, j'espère que le message va passer sur nos ondes. Enfin, il est passé, mais j'espère qu'il aura une répercussion. Alors, je termine parce que je veux aussi donner la parole un peu plus à Stéphanie et Antoine. Vous avez une actualité importante le 24 avril.
Oui. En gros, du coup, on a créé un événement. Donc, c'est un nouveau concept qui s'appelle Yabai Dojo, qui est en fait un événement qui est une masterclass. Donc, c'est un concept. Et là, notre première édition se passera au premier étage de la Tour Eiffel, à la salle Gustave Eiffel. Donc, on a réussi à louer les lieux. On a réussi à louer les lieux pour un cours de langue de japonais au-dessus des nuages, suivi d'une conférence entre les différences de vie entre la France et le Japon. Et enfin, la surprise, du coup, on va faire on va faire un concert. Voilà, chercher le mot. On va faire un concert de rock orchestra sur le thème de l'attaque des titans, un des animés les plus populaires de tous les temps aujourd'hui. Ouais. Voilà, on va refaire toutes les musiques de l'animé. C'est un événement qui est caritatif. Tous les billets iront directement au financement du voyage des jeunes. Et en fait, nous, on voulait prouver via cet événement que peu importe d'où l'on vient, on vient de Persan, qu'on vient d'un quartier, peu importe qui on est, on peut faire des choses incroyables. Et nous, on a réussi à louer le premier étage de la Tour Eiffel pour ça.
Incroyable.
Tout simplement. Ouais. En fait, nous, on a deux proverbes. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est rien n'est impossible. Donc, on rend possible l'impossible. Et enfin, tout ou rien. Donc, quand on accompagne les jeunes, c'est vraiment tout ou rien. On fait le maximum pour eux. Donc, quand on veut faire un événement, alors sans dénigrer, on ne va pas louer un gymnase du coup.
Non,
mais nous,
bien
on,
sûr,
va,
mais
on va prendre les plus grands
monuments
de Paris.
Un jour, peut-être.
Exactement.
Merci infiniment, Tariq, pour ce projet profondément humain qui montre que les voyages aussi peuvent changer des vies. Et puis, pour cette volonté, cette opiniâtreté que vous avez, c'est magnifique.
Merci
à vous. Merci beaucoup. On va faire une courte pause là aussi parce que je vois que l'heure tourne, donc juste un jingle. Et donc on reprend cette émission passionnante sur les relations franco-japonaises en compagnie de Tariq Aziz, David Croc, Antoine Chantavong, Stéphanie Roulant et Jean-François Benon, directeur général du CEVO. Alors, Antoine, juste quelques mots. On a compris comment vous aviez connu Tariq et que vous avez créé une vraie passerelle aussi entre vous et votre entreprise. Vous dites, vous, alors pour parler un petit peu de votre métier, vous dites qu'il y a une difficulté dans votre profession, c'est la licence d'opérateur de voyage avec Atout France. C'est quoi ça, Atout France ?
Atout France, c'est l'organisme qui donne les licences de voyage, tout simplement.
Enfin, d'accord.
Pour opérer comme agence de voyage, il faut avoir des garanties, enfin, il faut avoir des garanties financières, il faut avoir une licence.
Oui.
Et donc tout ça, c'est proposé par Atout France, donc c'est il faut que ça soit bien sûr encadré, etc. Donc il y a des règles.
C'est pas simple.
C'est pas simple. Donc ça a pris un peu de temps pour se mettre en place. J'ai créé ma société il y a 2 ans. Mais le temps d'avoir ma licence, ça a mis à peu près un an et demi. Parce que
ah
ça
oui,
demande...
quand même. Donc ça veut dire que pendant un an et demi, vous n'avez pas pu faire de voyage.
Alors j'ai opéré en tant que freelance.
Oui.
J'étais adossé à une agence de voyage qui m'a permis ça. Donc j'ai pu quand même travailler à ce moment-là. En parallèle de la création de ma société, je pouvais faire les deux, donc c'était une sécurité, voilà.
Ouais. On dit souvent que le Japon c'est un voyage unique. Qu'est-ce qui rend ce voyage, cette destination si particulière ?
Je dirais c'est le fait que ça soit une culture qui soit vraiment à l'opposé de la nôtre.
Oui.
C'est vraiment un contraste, un réel contraste, que ça soit par la langue, la culture, les coutumes. Donc c'est vraiment totalement différent. Et les gens, quand ils ont envie de partir, c'est souvent des projets de longue haleine.
Déjà, parce qu'il y a un coût quand même, donc il faut réunir la somme. Hein, donc, ouais. Et là, vous organisez un voyage prochainement ?
Oui, tout à fait. J'organise un voyage au mois d'octobre. Donc là, je suis en tant qu'opérateur. J'ai organisé le voyage pour une collègue voyagiste, mais j'offre mes services en tant que voyagiste et je fais l'accompagnement sur ce voyage au mois d'octobre sur un trajet assez simple et avec une petite extension sur une région qui est pas très connue par le public français. Qui est la préfecture de Fukui, qui se trouve au nord des Alpes japonaises. Voilà.
Et pourquoi ce choix, précisément ?
Il y a 2 ans, j'ai fait un voyage. J'étais gentiment invité par la préfecture pour faire découvrir la région. Et j'ai été séduit. Il y a vraiment il y a à la fois de la nature, de la culture, tout ce que les voyageurs ou les touristes français ont envie de voir. Et l'à côté qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a peu ou pas de tourisme.
Oui. Ah oui.
Donc déjà, c'est quand même un problème assez majeur au Japon, le surtourisme. Donc là, on est sur du hors sentier battu. Mm-hmm. Sur le voyage que je propose aussi, on fait quand même les incontournables, mais on a cette partie où, effectivement, on peut voir autre chose que des grandes villes ou des sites très touristiques.
Bien sûr. Et alors donc, j'imagine que vous allez participer, bien évidemment, à l'aventure de Yabai et les prochains voyages au Japon.
Alors, moi, ma participation, elle est,
en tant que président.
Alors, moi, j'encadre, je surveille, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ça qui est bien sûr importante.
Réelle.
Et après, je veille à ce que les choses se fassent. Donc, gérer une association, je pense qu'il faut la gérer un peu comme une entreprise. Enfin, c'est ma vision
des choses. C'est une entreprise, je vous confirme.
Donc, c'est pas faire des choses à fond perdu. Il faut derrière qu'il y ait, entre guillemets, une rentabilité. Il faut qu'on investisse parce que voilà, c'est du temps, c'est de l'énergie.
Bien sûr.
Donc, j'estime que derrière, il faut qu'il y ait un retour sur investissement.
Complètement. Merci infiniment, Antoine Chantavong. Merci pour cette vision du voyage et en tout cas comme expérience culturelle et humaine. Merci à vous. Et merci d'être le président de Yabai. On fait une nouvelle pause et je donne ensuite la parole à Stéphanie Roulant.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
On poursuit notre découverte du Japon avec Stéphanie Roulant et son atelier Aoi, parce que je crois qu'il n'est pas de voyage à l'étranger sans gastronomie. Et je vous remercie Stéphanie d'avoir accepté de participer à ce spécial Japon, puisque vous êtes vous-même traiteur qui proposait une cuisine française et japonaise. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. Et c'est moi qui vous remercie.
Je vous en prie. Votre parcours, Stéphanie?
À partir de quel moment? Parce que
je crois que vous n'avez pas toujours fait de la cuisine française-japonaise.
Non, pas du tout. C'était même à vrai dire absolument pas prévu. Il y a quelques années, vous m'aviez dit que je serais là. Je vous aurais dit absolument pas. J'ai fait plutôt du commerce. Enfin, j'ai plutôt une formation scientifique et après commerce. J'ai donc eu différentes expériences pendant 15 ans. Et puis, j'ai surtout une amitié très forte avec une japonaise.
Oui.
C'est une amitié d'enfance et c'est un peu ça l'origine du projet. C'est, on va dire, ma plus ancienne amie. Et c'est vrai, quand on parlait tout à l'heure de différences culturelles, c'est vrai, on a ces différences culturelles, mais je dirais qu'avec cette personne, j'ai un match, comme disent les jeunes, qui est absolument dingue, parce qu'on se complète énormément. On est vraiment très, très complémentaires. Et c'est vrai que ce projet est né de cette amitié où on s'est dit pourquoi pas essayer de promouvoir la cuisine japonaise. Et en l'occurrence, l'idée de départ, c'était les onigiri. Moi, j'ai trouvé que c'était un super produit.
Alors, expliquez-nous ce que c'est.
Alors, les onigiri, c'est des petits triangles de riz nature auxquels on va mélanger... Alors, traditionnellement, du thon mayonnaise, du saumon teriyaki, la petite prune omeboshi, c'est aussi un élément qu'on trouve beaucoup dans les mangas et dans les dessins animés japonais. Et c'est génial parce que c'est une base de riz nature. Le riz japonais est un ingrédient qui est juste délicieux et qui peut vraiment qui peut nous accompagner tout au long de la journée. Donc il y a un côté gustatif réel et puis il y a un côté pratique qui est génial aussi. Donc l'idée de départ, c'était un petit peu ça. Il se trouve aussi que je suis issue d'une famille de restaurateurs, donc manger d'une manière générale, c'est important pour moi depuis toujours. Et voilà. Et après, il y a des moments dans la vie où on se dit qu'on va faire autre chose. Et le projet est né comme ça et donc étrangement il est d'abord né via la cuisine japonaise et la cuisine française n'est venue que dans un second temps puisque je suis quand même française et la culture culinaire que je connais c'est la culture culinaire française. Et l'idée, c'était vraiment d'un moment donné d'allier ces deux cuisines au même moment, au même endroit, pour des personnes différentes, pour faire découvrir à ceux qui sont un peu réticents.
C'est ça.
Une cuisine japonaise, ça, moi, c'est un peu ce qui m'anime et ce qui m'amuse, c'est de partir de proposer à des gens qui sont vraiment réticents à cette cuisine. Et finalement de les amener à ce qu'ils se disent effectivement c'est bon, c'est chouette et on aime ça. Donc c'est vraiment c'est un peu l'idée.
Et je trouve que c'est une belle approche parce que on peut avoir parfois un a priori vis-à-vis de la cuisine asiatique, hein, notamment avec tout ce qui est cru. Oui. Tout le monde n'aime pas forcément le cru. Ouais. Donc le fait d'allier la cuisine française et japonaise, c'est une belle ouverture. Et puis voilà.
Oui,
et
puis il y a toujours ce petit côté de challenge. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour brusquer les gens, mais pour leur dire tester. Soyez curieux, essayez, vous allez voir, vous serez peut-être surpris. Et j'ai complété aussi plus largement, c'est-à-dire que je suis allée bien sûr me former auprès de chefs japonais, parce que ça me paraissait important de maîtriser quand même les produits que j'allais proposer. Alors, pas tous encore, mais au fur et à mesure, je me forme. Et il y avait aussi ce côté saké japonais qui m'a assez rapidement passionnée, parce que c'est aussi... très mal connu en France, et c'est dommage parce que c'est absolument extraordinaire à découvrir. Donc voilà, c'est vrai que ce qui m'anime et ce que j'adore, c'est faire ce mélange de produits français avec du saké japonais, de mélanger sur un même buffet ou dans un même cocktail des pièces 100% japonaises et des pièces plutôt 100% françaises. Je trouve que c'est un mélange qui fonctionne bien et puis ça laisse le choix à tout le monde d'aller là où il a envie d'aller, de faire un mix. Voilà.
Tariq, vous avez goûté à la cuisine de Stéphanie ?
Oui, rien que ce dimanche du coup.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut prendre ça comme un exemple ? Si.
Oui, avec plaisir.
Alors pour vous donner une anecdote, pour vous donner une anecdote, ce samedi, on a été invité au festival Kinotayo au Château d'Auvers et c'est nous qui avons fait le petit cocktail à la fin. Et en fait, Stéphanie est venue en renfort pour accompagner nos jeunes à réaliser le cocktail du coup. Donc, on avait fait des mini onigiri. Et elle nous avait donné aussi des conseils pour pouvoir améliorer nos onigiri, etc. Et du coup, ça a eu un beau succès.
Alors, c'est le festival du film japonais dont t'as parlé, Jean-François Benoît.
Exactement. Ouais. Et donc, c'est nous qui avons fait avec Stéphanie du coup les onigiri. Alors, on n'a pas pu les goûter à ce moment-là parce que on venait nous dans notre cas, donc je ne saurais pas vous dire. Mais des retours qu'on a eu, tout le monde était agréablement surpris du travail. Et d'ailleurs, je te remercie encore une fois, Stéphanie, d'être venue et d'avoir accompagné nos jeunes. Et voilà, donc la cuisine japonaise se partage de tout âge.
Alors, je crois que aussi vous êtes tombé sur quelqu'un de perfectionniste, hein, avec Stéphanie, parce que vous avez choisi donc le Val d'Oise et la zone de Roissy pour installer votre laboratoire traiteur. Vous avez été accompagné par Initiative et Roissy Dev.
Tout à fait.
Et moi, j'ai participé à l'apéro pitch lundi dernier à Roissy et j'ai découvert votre cuisine et je l'ai trouvée absolument délicieuse. Mais vraiment, enfin, moi, je suis très gourmande et c'était moi qui ne suis pas justement très asiatique, enfin, pour la cuisine, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux.
Merci, c'est super. Enfin, je fais ça pour ça.
Je pense que on sent que vous y mettez vraiment une certaine passion. Voilà, vous faites pas ça comme ça.
On est obligé, je pense. Hein, c'est d'autant plus que c'est pas mon métier, ma formation d'origine. Je pense que tout le monde peut faire la cuisine, mais je pense vraiment qu'il faut avoir envie de faire plaisir aux gens.
Être
traiteur, c'est aussi partager des moments de vie.
La cuisine comme un partage.
Oui, ce n'est quasiment que ça. Aussi avoir la conscience qu'on va participer à un moment des fois très important de la vie des gens ou d'une entreprise. Hein, c'est important. C'est pas juste manger. C'est le partage et c'est pour ça que je fais ça principalement. Voilà.
Et donc là, ça fait combien de temps maintenant que vous êtes installé?
Alors là, je me suis récemment installée à Épiers-les-Louvres, là, depuis le début d'année. J'ai eu un premier volet du projet avec aussi tout un aspect atelier de cuisine. Et donc là, on retrouve le partage. Et moi, j'adore transmettre le peu que je sais, en tout cas, parce que on me l'a moi-même transmis et c'était un vrai bonheur. Donc là, on est opérationnel avec ce nouveau laboratoire, donc grande cuisine. On pourra peut-être présenter aux jeunes lorsqu'ils en auront besoin. Et voilà, et l'idée effectivement, c'est de développer l'activité dans le Val d'Oise auprès des entreprises. Et le projet, c'est vraiment d'accompagner les entreprises tout au long de leur journée dans les moments culinaires.
Vous êtes à la fois traiteur pour entreprises et particuliers.
Oui, tout à fait. Et là, c'est vrai que le projet et le choix du Val d'Oise, c'était parce que c'est un réel choix, c'est d'aller aussi à un endroit où la cuisine japonaise, enfin où en tout cas le Japon est mis à l'honneur et où il y a une activité économique et un dynamisme économique réel.
Oui, très fort, très exactement. Fort. Antoine, vous pourriez faire un événement aussi avec Stéphanie comme traiteur?
Oh oui, complètement. Complètement, oui. Ça va dans les... ça rentre carrément dans... Ça coche toutes les cases. Je veux dire, on est sur le Japon, sur la gastronomie, donc... Il y a des chances qu'on
puisse
collaborer sur quelque chose de...
Moi, oui, Stéphanie,
je suggère un voyage dans une brasserie japonaise.
Avec grand plaisir.
Ben voilà, une idée de lancer. Stéphanie, si des entreprises nous écoutent aujourd'hui, j'espère, quel type d'événement vous pouvez accompagner?
Alors, on peut les accompagner tout au long de la journée. Donc, petit déjeuner, plateau repas, cocktail, buffet, animation culinaire, team building également autour de la cuisine. Moi, j'adore sortir du cadre et faire du à la carte et m'adapter aux contraintes et aux envies. Tant que c'est possible, je le fais. Donc, il faut surtout ne pas hésiter à appeler et à dire « voilà le projet », même s'il paraît un peu irréalisable ou un peu dingue. C'est la liberté que j'ai envie d'avoir. Donc, si les entreprises, ils vont en avoir des événements à venir là sur le printemps, surtout ne pas hésiter à
vous contacter.
Exactement. Tout à fait.
C'est ça, parce que si j'ai bien compris, vous faites pour de combien de personnes à combien de personnes?
Alors, j'aime pas donner un minimum parce que ça dépend.
Faut vous contacter.
Exactement.
Puis,
après, ça peut aller de 200, 300 personnes. J'ai la chance aussi de travailler avec un traiteur dans le département des Yvelines où on partage vraiment nos compétences. Et donc, ça me permet de pouvoir faire des événements au-delà de 300 personnes sans problème. Donc, n'hésitez pas, même un échange. Après, ça aboutit ou ça aboutit pas, mais l'idée, c'est d'échanger déjà dans un premier temps.
Que faut-il faire pour vous contacter?
Alors, pour me contacter, je donne mon numéro de téléphone, 06, c'est ça? Donc, le 06 52 10 52 25. Sinon, par mail, contact au singulier @atelier-6aoilettrolette.com.
C'est déjà voilà, et puis on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Donc merci infiniment et des coordonnées qui se retrouveront de toute façon dans le podcast.
Merci
beaucoup Stéphanie de nous rappeler que la gastronomie est aussi un formidable pont entre les cultures. Et puis merci pour toutes les délicieuses préparations que vous savez nous préparer.
Merci à vous.
Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Donc juste un mot avant de se quitter. Donc Antoine, pour vous contacter, vous, que faut-il faire?
Vous pouvez m'appeler, je prends sur rendez-vous, donc vous pouvez m'appeler ou aller sur mon site pour prendre contact.
Donc plutôt Antoine Chantavong ou Kitsune?
Kitsune.
Kitsune.
Oui, Kitsune Voyage, donc si vous tapez sur le moteur de recherche, vous me trouverez. Donc,
voilà. Merci beaucoup, Antoine. Stéphanie, un mot avant de nous quitter?
J'espère pouvoir partager ma passion dans le Val d'Oise
le plus possible.
Le plus possible.
Et nous, c'est tout le mal qu'on vous souhaite.
C'est gentil.
Merci à vous. Et donc, Tariq, le mot de la fin est pour vous.
Ok. Alors moi, je voulais surtout remercier tous les acteurs qui nous ont tendu la main. Donc, je vous remercie. Je te remercie, Stéphanie. Merci, Antoine. Merci Jean-François Benon. Merci aux jeunes. Merci à vous. Et enfin, merci à tous ceux qui nous ont soutenus et ceux aussi qui ne nous ont pas soutenus, car vous nous avez quand même donné la force de continuer.
Façon.
Donc voilà, tout simplement merci. Arigato gozaimasu.
Merci infiniment, merci à vous. Eh bien, moi, je conclue en disant que le Japon n'est pas seulement une destination touristique. Hein, on l'a vu, c'est une source d'inspiration culturelle, un partenaire économique et même parfois un chemin de reconstruction pour la jeunesse. Donc, merci à mes invités. Donc, vous, Tariq Aziz, Association Yabai, David Croc, Maison HIS, Antoine Chantavang, Kitsune Voyage, Stéphanie Roulon, l'atelier AOI, je vais aller trop vite, et Jean-François Benon du CEVO. Merci à vous tous pour votre passion et vos projets qui ouvrent de nouvelles voies entre le Val d'Oise et le Japon. Merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Nicolas, merci Enzo pour la technique. Et alors je vais essayer, je me lance, comme on dit au Japon, arigato gozaimasu, c'est ça?
C'était ça, arigato gozaimasu.
Moi, je ne l'ai pas dit aussi bien. Merci. Voilà, cette émission vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager avec votre entourage sur vos réseaux. Retrouvez son podcast sur idfm98.fr. On se retrouve vendredi sur IDFM pour une nouvelle émission de l'économie en direct. Mais restez sur notre fréquence, les programmes continuent sur IDFM Radio. Belle journée et bonne semaine, et on termine avec un morceau choisi par Tariq Aziz, Junko Yagami, Mizuhiro Noame. Désolée pour l'accent. Merci Tariq. Ooh.